Je vais maintenant laisser la place à Marc, qui va nous porter la méditation de ce matin.
Merci. Et on va laisser à Pierre-Yves l'occasion de se reposer en ce jour du 1er mai. Mais ce n'est pas un travail d'apporter la prédication, le travail c'est avant, c'est en amont quand il faut passer du temps dans la préparation. Le sujet que j'aimerais aborder avec vous ce matin n'est pas un sujet facile, c'est un sujet délicat, qui peut faire peur, qui peut aussi apporter ou nécessiter différentes interprétations, mais je crois que notre devoir d'enseignant, de prédicateur, n'est pas simplement de partager des choses agréables. Il faut aussi voir dans l'Écriture ce qui n'est pas agréable ou qui n'est pas facile à partager. Et ce que j'aimerais méditer avec vous ce matin peut se résumer par une parole de Jésus qu'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 9 et au verset 4, où Jésus dit « Il faut que je travaille tant qu'il fait jour, parce que, je cite de mémoire, c'est pas forcément les mots que vous avez dans votre Bible, parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. » Et j'aimerais vous parler ce matin donc de ce que la Bible appelle l'Antichrist. Ce mot déjà en lui-même peut faire peur, peut susciter toutes sortes d'interrogations. Mais avant d'aller plus loin, lisons d'abord dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens et au chapitre 2, un enseignement que Paul donne aux chrétiens de l'église de Thessalonique à ce sujet. Et nous lirons les 12 premiers versets de ce chapitre 2 de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus et notre rassemblement auprès de lui. Alors l'avènement, c'est la venue en gloire de Jésus, quand il reviendra pour le jugement et pour établir son royaume. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Et puis, deux autres lectures encore, dans le célèbre Matthieu, passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 24, et nous lirons les versets 21 à 27, célèbre parce que Jésus parle de la fin de Jérusalem, de la destruction de Jérusalem et du Temple, et aussi de la fin des temps. Et nous lirons simplement les versets 21 à 24. Car alors, dit Jésus, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ce jour seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et un dernier verset qu'on trouve juste avant le livre de l'Apocalypse, dans la première épître de Jean, au chapitre 2, nous lirons le verset 8, ou pardon, le verset 18, j'ai oublié un 1, verset 18. Jeunes enfants, mais il s'adresse non pas aux tout petits, il s'adresse aux gens des églises qui peuvent lire, qui peuvent comprendre. C'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Voilà pour les lectures. Il est donc question d'événements terribles, difficiles, d'un antichrist que l'apôtre Paul appelle l'impie, l'homme impie, suppôt de Satan, qui viendra avant le retour glorieux de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que un antichrist ou des antichrists? Ce sont ceux qui s'opposent à Christ, c'est ce que littéralement cela veut dire, anti contre Christ, qui persécutent le peuple de Dieu. Et en ce sens, certains empereurs romains, autrefois, Hitler et Staline, il n'y a pas longtemps, étaient des antichrists dans ce sens qu'ils s'opposaient aux chrétiens ou à l'enseignement du Christ et punissaient, souvent terriblement, sauvagement, ceux qui mettaient cet enseignement en pratique. On sait qu'à Lyon, par exemple, qui s'appelait à l'époque Luc de Nome, sur les pentes de la colline de la Croix-Rousse, en 177 de notre ère, des chrétiens furent livrés aux bêtes dans l'amphithéâtre des Trois Gaules. Et c'est là que Maturus, Sanctus, Blandine et Attal furent conduits aux bêtes, selon l'expression de la lettre des chrétiens de Vienne et de Lyon, envoyée à leurs frères d'Asie, et qui relate ces terribles événements. C'est l'historien Eusèbe de Césarée qui, au début du IVe siècle, a conservé cette lettre dans son histoire ecclésiastique. Depuis, les antichrists ont toujours existé. Ce sont ceux qui empêchent les chrétiens d'exercer librement leur culte, qui s'opposent ainsi à Dieu. Ils existent encore aujourd'hui dans bien des pays du monde. Et l'apôtre Jean écrit que ces antichrists qui existent sont ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ soit venu dans la chair, c'est-à-dire en tant qu'homme, donc ceux qui professent aussi de fausses doctrines. Mais s'il y a eu des antichrists, et s'il y a encore aujourd'hui à travers le monde des antichrists, Jésus, Paul, Jean, et on pourrait ajouter aussi le prophète Daniel, annonce qu'à la fin des temps, un antichrist avec un A majuscule se manifestera avec la puissance de Satan juste avant la venue en gloire de Jésus. C'est ce qu'écrit Paul et que nous avons lu dans son épître aux Thessaloniciens. Il écrit que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, le retient encore avant que, un peu comme un chien enragé, il casse sa laisse ou il ait une plus grande laisse, investi de tout le mal dont est capable Satan et ses démons pour donner libre cours à cette puissance satanique. Alors, qu'est-ce qui le retient encore? Les théologiens se sont interrogés sur ce qui le retient. Pour faire court, parce que nous n'avons pas le temps ce matin de nous étendre là-dessus, une réponse me semble satisfaisante. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 13 et au verset 10, Jésus dit qu'il faut premièrement que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toutes les nations. Sans doute ce qui retient la venue de cet antichrist, c'est l'évangélisation du monde qui doit être achevée, répandue sur la face de la terre, au loin, selon la volonté de Dieu, avant que cet antichrist vienne, avant aussi la venue de Jésus. L'œuvre de cet antichrist, nous dit Jésus, et aussi, je crois, d'autres textes de l'Écriture, sera court, abrégé, dit Jésus. Et qu'il le détruira, dit Paul, du souffle de sa bouche, qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Il semble qu'il suffit d'un geste de Jésus pour arrêter cette œuvre de l'Antichrist. Et je crois que Apocalypse chapitre 20, ce fameux chapitre qu'on appelle aussi le millénium, ou plutôt, oui, l'action de Satan aussi, qui est d'abord enchaîné, et puis ensuite déchaîné, nous dit que ces antichrists ou ces œuvres de Satan montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. On a l'impression que là aussi cela se passe très rapidement, une sorte de blitzkrieg à l'envers. Vous savez, la blitzkrieg à l'époque des armées de Hitler, c'était une invasion extrêmement rapide qui occupait le terrain et qui prenait possession du territoire ennemi. Là, c'est un peu une sorte de blitzkrieg à l'envers, où les forces du bien, ceux de Jésus-Christ, l'emportent sur les forces du mal, les forces sataniques. Alors, comment se manifestera cet antichrist? Par une opposition à Dieu, une apostasie, écrit Paul. Alors, qu'est-ce que l'apostasie? C'est tout simplement un abandon de la foi et de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, dans notre monde, on assiste à notre monde occidental en tout cas, une apostasie, un abandon de la foi. Mais aussi, dit Jésus, une grande tribulation. La Bible du Semeur traduit une terrible détresse. Tribulation veut dire aussi persécution. Et c'est ce qui se passe aussi, même dans des pays où on mentionne le nom de Dieu, on agit au nom de Dieu. Les chrétiens sont persécutés. Mais Jésus, qui ne perd jamais son sang-froid, et qui peut parler de ces événements terribles avec sang-froid, dit cette parole un peu curieuse dans Luc 21. Luc 21, c'est un peu le parallèle de Matthieu 24. Hein. Luc 21, 13, Jésus dit « Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage ». Préférer rendre témoignage en d'autres circonstances. Mais c'est vrai que la persécution donne l'occasion de rendre témoignage. Donc par une opposition à Dieu, par des miracles éblouissants, de grands signes et des prodiges, dit Jésus, Toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, écrit Paul. Une grande séduction, au point de te séduire. Et Jésus ajoute, si c'était possible, ce qui veut bien dire que ce n'est pas possible, les élus, ajoute Jésus. Et puis aussi par un système économique qui rend la population dépendante de l'État, de son système politique. Et cela, je le trouve dans Apocalypse chapitre 13, où il est question de la bête. Et la bête, bien, c'est un dictateur, et il est d'ailleurs assez intéressant de voir que l'Apocalypse compare les dictateurs à des bêtes, non plus à des hommes, mais à des bêtes. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite et sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. On voit bien que tous ceux qui ne se soumettent pas au régime politique mis en place se trouvent dans de grandes difficultés économiques, ne pouvant plus ni acheter, ni vendre, ni faire du commerce. Et un exemple de cela est assez facile avec ce qui s'est passé lors de la dernière guerre mondiale. Les Juifs devaient porter une étoile. Les Juifs ne pouvaient plus travailler, ne pouvaient plus être commerçants. Ils étaient pourchassés, ils étaient interdits, en fait, d'exercer leur propre profession. Et en 1933, alors que l'Allemagne était une république démocratique, le président Hindenburg a dû nommer Hitler comme chef du gouvernement. Hitler, à cette époque, était adulé par les foules. Et il a réussi à sortir son pays du marasme économique, d'une inflation démesurée, d'un chômage endémique, d'un désespoir qui minait le moral du peuple. Après la défaite de la guerre de 14-18, l'Allemagne enfin relevait la tête. Il était le sauveur. Mais on sait ce que cela a donné. Alors qu'Hitler avait promis 1000 ans de bonheur et de paix. Personne ne savait, ou rare, peut-être que certaines personnes s'en doutaient, mais à l'époque, les gens croyaient qu'Hitler était le sauveur. Aujourd'hui, la situation peut évoluer très vite. Elle peut se mettre en place insidieusement, dans l'indifférence générale, puisque nous sommes déjà dans cette apostasie. Et Jésus prend exemple en Matthieu 24, 37 et 39 sur les événements de l'époque de Noé. Et il dit à l'époque de Noé, les gens vivaient normalement. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils faisaient la fête, ils se réjouissaient jusqu'à ce qu'un événement terrible tombe sur eux, le déluge. L'apostasie est déjà bien installée dans nos pays. Les persécutions n'ont pas cessé. Le terrorisme et l'angoisse qu'il génère non plus. L'homme impie, l'Antichrist, peut proposer 1000 ans de bonheur en affichant une haine farouche de tout ce qu'on appelle chrétien et être acclamé comme un sauveur par une large majorité des gens. J'ai été frappé dernièrement par une étude d'Henri Blocher, un frère que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, que je considère vraiment comme un homme de Dieu, un prophète même aussi, en tout cas un enseignant remarquable. Et il conclut ainsi une étude sur l'enseignement dispensé dans les écoles de théologie en Europe. Aujourd'hui, dans bien des facultés de théologie européenne, il n'est même plus besoin d'être chrétien pour enseigner la théologie chrétienne. Il conclut ainsi, si les antichrists présents annoncent bien l'antichrist ultime, notre temps pourrait être celui d'un dernier répit, d'une dernière éclaircie avant la nuit où personne ne peut travailler, la nuit avant le jour. Et j'ai trop d'estime pour ce frère pour ne pas prendre son avertissement au sérieux. Alors, qu'est-ce que l'Antichrist annonce ? Tout d'abord, je mettrai en premier une délivrance. Jésus nous dit, quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Il s'agit de la délivrance de tout ce qui nous oppresse, et du péché en particulier. Jésus a promis de revenir pour établir son royaume où le péché n'existera plus. Mais il faut d'abord, dit Paul, que l'Antichrist, que l'homme impie, etc. Et puis cet Antichrist annonce aussi un jugement de Dieu sur notre monde pécheur. L'Antichrist annonce un temps où la grâce, où le temps de la grâce sera terminé. La nuit spirituelle instaurée par l'Antichrist annonce que la grâce de Dieu s'est retirée de notre monde, alors que Dieu ne cesse de tendre les bras pour appeler les gens à se tourner vers lui et à suivre son enseignement. L'apostasie, qui n'est pas l'athéisme, l'apôtre Jean nous le montre, englobe toutes les fausses doctrines, donne bonne conscience aux gens. Aujourd'hui, vous pouvez très bien être catholique et bouddhiste, ça ne choque personne. Alors que les bouddhistes ne croient pas en Dieu, ça n'a aucune importance. Et l'ennemi à battre, ce sera les chrétiens, puisque on sait très bien que les chrétiens sont des gens retardés, des gens qui n'ont pas évolué, des gens qui, franchement, ne sont plus du tout à la mode. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11, je relis dans la traduction Bible du Semeur. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Ailleurs, l'Écriture dit qu'on ne saura plus distinguer le bien du mal. Alors, quelle doit être notre attitude ? D'abord, une question. Pourquoi tant de personnes dans les siècles passés et encore aujourd'hui affrontent l'opprobre et même la mort alors qu'il leur suffirait de renier leur maître Jésus-Christ pour couler des jours tranquilles ? Qu'est-ce qui fait qu'ils préfèrent d'une certaine façon, enfin ils préféraient autre chose, mais ils préfèrent rester fidèles au Seigneur plutôt que de renier leur foi, ce qui leur permettrait de ne pas souffrir. C'est qu'ils mettent Jésus-Christ au-dessus de tout, ce qui leur est le plus cher au monde, y compris leur famille. Alors c'est aujourd'hui qu'il faut nous ressaisir avant qu'il ne soit trop tard, avant que la nuit ne tombe sur notre monde, où personne ne pourra travailler. Jésus est-il totalement notre Seigneur ? Lui avons-nous donné totalement notre vie ? Lui sommes-nous attachés corps et âme, quoi qu'il en coûte ? Alors, il ne nous appartient pas aujourd'hui de nous demander si nous serons fidèles en cas de persécution. Je crois qu'au moment de la persécution, Dieu donne la force nécessaire, une force dont nous n'avons pas besoin aujourd'hui. Mais lui sommes-nous attachés entièrement ? Pouvons-nous renouveler notre engagement pris lors de notre baptême ? Vous savez que le baptême, c'est avant tout un engagement. On s'engage à suivre le Seigneur jusqu'au bout. Et si nous ne sommes pas baptisés, sommes-nous prêts à dire notre engagement au Seigneur ? Par le baptême. Ce baptême signifie que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais que nous appartenons au Seigneur. Et puis ne négligeons pas la communion avec le Seigneur qui se développe par la lecture de la Bible et par la prière. C'est la méditation, je dirais quotidienne, régulière, de la parole de Dieu, de la Bible, qui nous rend forts. Et dans les moments d'épreuve, quand nous avons besoin de force supplémentaire, cette parole nous revient à l'esprit et nous rend fort. Et le Seigneur sait adapter ces versets que nous avons emmagasinés en nous-mêmes à nos circonstances, à celles que nous traversons. Et dans l'épreuve comme dans l'adversité, la parole de Dieu qui est imprégnée dans notre mémoire est une véritable force pour résister au découragement. Alors, lisons la Bible. Ne négligeons pas de l'étudier. Ne négligeons pas ces rendez-vous quotidiens avec le Seigneur dans sa parole et dans la prière. Mais lisons-la aussi dans une traduction, dans une version qui nous la rend plus compréhensible. Et je conseille la Bible du Semeur, avec note. Posons-nous la question de Philippe, que Philippe l'évangéliste a posée à l'Éthiopien en Actes chapitre 8. Comprends-tu ce que tu lis ? Quand on lit la Bible, il est important de la comprendre. Il y a des traductions qui nous en facilitent la compréhension. Tout dépend de notre degré de connaissance de cette parole de Dieu, bien entendu. Puis en dernier lieu, enfin en avant-dernier lieu, mettons-nous au service du Seigneur pendant qu'il fait jour, tant qu'il nous en donne la force. Un jour, ce sera trop tard. Jésus l'a dit, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Et puis, en dernier lieu, sachons discerner nos priorités. Ne nous attachons pas à ce qui est éphémère, passager. Pour nous, écrit Paul aux Philippiens, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, puisque nous sommes encore dans le temps du répit de Dieu, profitons-en pour nous affermir dans notre foi et pour annoncer, pour évangéliser, pour faire connaître ce si grand salut. Et ne soyons pas surpris par la nuit qui vient, où personne ne pourra travailler. Le Seigneur nous a avertis. Un jour, peut-être proche, je ne sais pas. C'est ce que suggère Henri Blocher. La porte de la grâce se fermera. Ce sera le temps de l'épreuve et de la délivrance pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Et Jésus dit ailleurs, « Heureux le serviteur que le maître trouvera vigilant et fidèle en ce jour-là. » Agissons comme des chrétiens avertis et responsables. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, tu nous annonces dans ta parole des temps difficiles, épouvantables, mais que certains de nos frères et de nos sœurs vivent aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, ont vécu aussi dans le passé, à travers le monde. Merci parce que tu es là. Non seulement tu nous avertis, mais tu nous rassures par ta présence. Tu nous dis même ailleurs que nous n'avons pas besoin de nous soucier de ce que nous dirons devant les tribunaux, car le Saint-Esprit viendra à notre aide. Merci Seigneur, parce que tout cela annonce aussi que tu reviens établir ton royaume dont nous faisons partie, puisque tu as fait de nous tes enfants. Aide-nous Seigneur à savoir travailler pendant qu'il fait jour, à savoir être près de toi, à chercher ta direction, à savoir discerner les temps que nous vivons. Merci pour cette parole qui nous avertit, mais aussi qui nous console, qui nous fait du bien. Aide-nous, Seigneur, simplement à nous ressaisir, à nous donner entièrement à toi et à te suivre, parce que tu es le Seigneur glorieux qui vient détruire du souffle de sa bouche, les œuvres de Satan. Merci Seigneur parce que tu es notre Maître et notre Seigneur. Bénis chaque personne ici présente et bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.